Gloire à notre Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés. Nous sommes en train d'étudier les ordonnances de l'Église dans le cadre de la thématique que nous étudions, en l'occurrence l'Église. Je pourrais, si Dieu me prête vie, faire un long rappel de tout ce qui a déjà été couvert dans le cadre de l'étude de cette thématique depuis qu'on a commencé. Ce ne sera pas en détail nécessairement, mais rappeler les grands points de ce qui a été couvert. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais simplement vous rappeler que nous étudions la Sainte Cène après avoir étudié le baptême, parce que la Sainte Cène, comme je l'avais dit, c'est cette autre ordonnance, la deuxième ordonnance que le Christ laisse à son Église dans sa parole, dans le Nouveau Testament. Nous avions regardé que c'est ce que lui a laissé. Nous avions regardé que c'est ce que les saints apôtres ont fait à sa suite. Et tout ça nous rappelle, particulièrement la Sainte Cène en tout cas, et tout ça nous rappelle, eh bien, que nous avons ces deux ordonnances pour l'Église. Je ne reviendrai pas sur ce que j'avais partagé avec vous concernant le baptême. Cependant, je reviendrai sur, avant que j'enchaîne avec de nouveaux points, toujours en lien, en relation avec la Sainte Cène. Je reviendrai sur quelques points que j'ai considérés avec vous mercredi dernier par rapport à la Sainte Cène. Le tout premier élément que nous avions considéré ensemble, c'était que le fait que la Sainte Cène, comme ordonnance du Seigneur, est mentionnée dans l'Écriture sous plusieurs noms ou groupes de noms ou vocables, ou bien expressions parmi lesquelles nous avions vu que la fraction du pain de Actes chapitre 2 verset 42 parle de la Sainte Cène. Si vous voulez parler de la Sainte Cène, vous ne voulez pas nommer Sainte Cène, vous dites la fraction du pain, vous dites bibliquement, hein, du point de vue de la théologie protestante évangélique, vous dites la même chose. Nous avions vu aussi que la Sainte Cène s'appelle la coupe de bénédiction. Si vous ne voulez pas, vous voulez varier votre langage, vous ne voulez pas parler de Sainte Cène ou de fraction du pain, mais vous parlez de coupe de bénédiction. Ou du moins, quand vous entendez quelqu'un autour de vous parler de la coupe de bénédiction dans le contexte de la liturgie protestante, évangélique, biblique, eh bien, sachez que en disant la coupe de bénédiction, la personne qui vous parle est en train de parler dans un langage, degré de langage, je dirais, supérieur. Il est en train de parler de la Sainte Cène. Et l'autre expression, groupe de mots utilisé pour parler de la Sainte Cène, c'est bien le repas du Seigneur. Quatre groupes de mots. Utilisé dans l'écriture, c'était versé à l'appui. Aujourd'hui, je ne reprendrai pas ces versets-là, mais c'était versé à l'appui. Donc, en sachant cela, nous sommes capables de communiquer, de prier, d'enseigner, de comprendre les enseignements, de varier notre langage. C'est très, très bien. C'est pas de l'intellectualité, ça. Ça fait partie de votre connaissance biblique, de votre connaissance théologique pour mieux appréhender et vivre votre foi. Très important de comprendre cela. Parfois, les gens ont tendance à avoir peur de la connaissance. Ils disent trop de connaissances. Ça, ce n'est pas de la connaissance. C'est approfondir votre foi. C'est approfondir sa foi. Que d'être capable de nommer un geste d'adoration, un geste liturgique, un geste culturel d'une si grande envergure que d'être capable de cerner le vocabulaire qui l'entoure dans l'écriture. Mais ce n'est pas de l'intellectualité, ça, c'est de la connaissance de Dieu et des affaires de Dieu et des choses de Dieu. Très important. Nous, les baptistes, nous n'avons pas peur de la connaissance, Dieu merci. Alors, voilà. Il y a aussi un autre élément sur lequel j'avais attiré votre attention, c'était l'institution du baptême, de la Sainte-Cène. Nous avions vu que, on en a parlé tout à l'heure, on a dit que la Sainte-Cène fait partie des deux seules et uniques ordonnances que le Christ, dans sa grâce, dans son amour et sa fidélité, nous a laissées. Alors, en disant cela, j'ai comme mentionné déjà le deuxième élément que je veux regarder avec vous en termes de rappel, c'est l'auteur de cette institution-là, la personne qui l'a établie. C'est le Christ, nous l'avons vu noir sur blanc, qui a établi la Sainte-Cène. Paul nous donne un long aperçu sur cette origine christique de la Sainte-Cène quand il dit, quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, etc. Et moi, je ne reviendrai pas sur le verset, mais comprenez cela. Mais je ne me suis pas limité seulement à ce verset, c'est-à-dire 1 Corinthiens 11, le verset 23, pour vous montrer que Saint Paul nous fait savoir clairement que le Christ lui a parlé et lui a donné une révélation concernant la Sainte-Cène et dans ses échanges avec les autres saints apôtres qui étaient les témoins oculaires de la vie du Christ. Et assurément, il a reçu cette révélation-là. Il ne nous a pas dit de quelle manière, ni à quel moment, mais il dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et ce qu'il a enseigné porte sur la Sainte-Cène. Bien important de comprendre cela lorsque nous parlons de l'institution par Christ, ou alors lorsque nous parlons du Christ comme étant l'auteur de l'institution, de l'établissement, de l'instauration, si vous voulez, de la Sainte-Cène comme geste culturel faisant partie de la liturgie protestante. Et dans Luc 22, verset 14 à 20, nous l'avions vu lorsque le Christ a mangé la dernière scène, le dernier repas, la dernière fraction du pain avec ses disciples, la nuit où il fut livré. Et à cette occasion, il a dit noir sur blanc ce qu'il fallait faire. Et de continuer, faites ceci en mémoire de moi, dit le Christ. Donc, faites ceci en mémoire de moi. L'injonction est claire. Hein? Nous ne sommes pas devant un acte, et je dirais volontaire ou qu'on peut faire ou ne pas faire, facultatif du moins, mais plutôt devant une ordonnance. C'est ça le sens du mot ordonnance. Le Christ ordonne. Nous avons ici la forme affirmative, et pardon, la forme impérative, lorsque le Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est ça le sens du mot ordonner, ordonnance. Hein? Il ordonne, il demande. Il n'a pas suggéré le Christ, c'est le maître, c'est le chef, le capitaine de l'Église. Il ordonne que ceci soit fait en sa mémoire. C'est tout simplement, voilà pourquoi nous n'avons pas à nous chicaner avec les églises qui le font à chaque rencontre ou qui la pratiquent à chaque rencontre ou à chaque mois, à chaque année. Chacun, il va, puisque le Christ n'a pas institué à quel moment, le Christ n'a pas parlé de fréquence. Les saints apôtres n'ont pas parlé de fréquence. Saint Paul a repris l'appel du Christ sans parler de fréquence. Aux 3 mois, aux 2 mois, pasteur, chaque jour, on ne sait pas. L'écriture est muette par rapport à la fréquence. Même si nous avons un aperçu, c'était le premier jour de la semaine. Alors, les églises qu'ils font à toutes les mêmes semaines sont peut-être plus proches de la fréquence des saints apôtres que nous-mêmes, de la fréquence apostolique que nous. Mais là, c'est pas grave. Il n'y a pas de chicane à faire là-dessus. La doctrine est appliquée. Et c'est selon les moyens de chaque église aussi. Il y a toute une question logistique qui entoure ce beau chapitre de la liturgie chrétienne. Alors, si on le fait à tous les mois, il y a rien de grave. Et si on le fait à toutes les semaines, il n'y a rien de grave. Donc, c'est très important de comprendre cela. Et alors, nous avions aussi regardé, et très important, nous avions regardé la signification de la Sainte-Cène. Laissez-moi prendre une gorgée, s'il vous plaît. Et voilà, ça y est, merci. D'abord, déjà dans l'ordonnance, nous voyons un élément de signification de la Sainte Cène. Quand le Christ dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, partant de ce verset qui nous sert à deux révélations, ça nous sert à comprendre que c'est une ordonnance du Christ et que le Christ est l'auteur de cette ordonnance et la source de cette ordonnance, mais en même temps, nous voyons sa signification, c'est en mémoire de moi. Donc, en mémoire de moi nous rappelle que c'est une commémoration, hein? Ah, c'est un mémorial. Hein? La Sainte Cène, premier élément de signification qu'on a vu, mercredi dernier, dans la grâce du Christ, c'est que la Sainte Cène, c'est un mémorial. Hein? Nous pratiquons la Sainte Cène pour nous rappeler de la mort et de la personne du Christ, de l'œuvre du Christ, son œuvre expiatoire, son œuvre salutaire, son œuvre de bénédiction éternelle. C'est là le sens de la participation à la Sainte Cène. C'est le sens, je dirai davantage là-dessus tout à l'heure, Dieu voulant, au risque de me répéter parce que c'est un pan très important, eh bien, de notre enseignement sur ce sujet-là. Okay? Et très important de comprendre cela. Donc, c'est bien. Et les croyants sont rassemblés pour se souvenir. Hein? C'est un devoir de mémoire. Voyez-vous, c'est un devoir de mémoire. Les gens qui s'apprêtent à célébrer le jour de l'indépendance d'Haïti, les gens qui se rassemblent pour fêter à quoi le 4 juillet aux États-Unis, le jour de l'indépendance de leur pays, les gens qui se rassemblent sur la plaine d'Abraham pour fêter des histoires et des moments forts de leur histoire. Mais c'est la même chose pour nous. Lorsque nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur, voilà pourquoi j'ai beaucoup insisté sur la portée, hein, sur la portée liturgique, la valeur, eh bien, de ce geste. Chaque geste que nous posons dans l'adoration du Seigneur, c'est un geste important à ne pas prendre à la légère. Mais vous m'avez vu insister pas beaucoup sur la Sainte Cène, hein. Les gestes, on peut dire, si on veut, sont d'égale valeur. Mais en termes de gestes fondateurs, hein, la prière n'a pas fondé notre vie éternelle, mais la mort du Christ a fondé notre vie éternelle. Voyez-vous? Donc, il y a en même temps, les gestes sont d'égale valeur, mais il y en a qui sont quand même plus importants que d'autres à l'analyse. Quand on y réfléchit bien, quand on médite de manière approfondie, on voit que les gestes cultuels sont tous ordonnés par Dieu, finalement. Mais il y a des ordonnances toutes spéciales. Voyez-vous? Alors, bien important de comprendre cela. Donc, je disais, votre serviteur vous disait que dans ce devoir de mémoire, il ne s'agit pas de se rappeler seulement le martyre du Christ, hein, il faut aussi se rappeler de son œuvre, de ce que ça nous apporte, et aussi de sa personne, de sa personne vivante, de sa personne réelle, de son activité, de sa pureté, de sa sainteté, de sa justice, de sa divinité. Tout cela est dans le fait aussi quand nous nous rappelons, eh bien, du Seigneur. L'autre chose, l'autre élément de signification qu'on avait regardé, c'est que, et là, cette scène, c'est le signe de la nouvelle alliance. Je me suis étendu amplement sur cet élément-là, parce que c'est très, très important pour la sainte doctrine. Et là, cette scène, un autre élément de signification qu'elle comporte, c'est que elle signifie, elle représente, elle est le signe de la nouvelle alliance. Le Christ a dit dans Luc 22, verset 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'était une coupe remplie de vin, de jus, de raisin de son temps, de bon jus de raisin de son temps, de bon vin de son temps. Ils avaient tendance à mélanger vin et aussi avec le jus. Ils n'étaient pas si experts en vin que nous aujourd'hui. Souvent, c'était du vin de leur temps, de leur façon de faire, du vin artisanal, hein. Alors, bien important de comprendre cela. Ce n'est pas du vin industriel comme aujourd'hui. Hein? Mais il a brandi la coupe, il a exhibé la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue. Votre frère vous a fait remarquer que, en disant cela, le Christ voulait dire, cette coupe représente. Hein? Autrement dit, et la coupe, et ce qu'il était en train de faire, représente, eh bien, l'établissement de la nouvelle alliance en son sang. Et j'avais tout expliqué J'ai repris l'enseignement que j'ai déjà dispensé dans la congrégation au sujet de la nouvelle alliance et au sujet de l'œuvre expiatoire du Christ. Quand on étudiait Galates, Éphésiens, on avait regardé cela en détail, mais de Hébreux en particulier, et j'ai dû y revenir mercredi dernier pour pouvoir établir eh bien, cet enseignement-là, pour faire comprendre cet enseignement, cette déclaration du Christ à l'effet que cette coupe est la nouvelle alliance en son sang. Alors, le Christ, Dieu a promis à son peuple une nouvelle alliance. Eh bien, le Christ dit, cette alliance, c'est moi qui réalise cette alliance. C'est dans ma personne, dans mon sang, dans ma mort, dans ma résurrection, que cette nouvelle alliance est scellée. Et le Christ a tenu à expliquer cela. On a regardé cela mercredi dernier. Et pour être honnête avec vous, je me suis réécouté. Hein, je me réécoute quand j'enseigne. Depuis qu'on a commencé à s'enregistrer, je me réécoute. Mais avec ma santé, cette semaine, j'avoue que je ne me rappelle pas si j'avais déjà regardé avec vous la troisième signification. Et la plus simple, la plus explicite aussi, à savoir que c'est une prophétie du retour du Christ. Si je l'ai déjà regardé avec vous, puisque je n'ai pas pu me réécouter en semaine. Et alors, pardonnez-moi si je le reprends, parce que je ne veux pas ne pas le reprendre au cas où ça n'a pas été fait. Donc, je vais vous rebattre les oreilles là-dessus. Soyez indulgents. Donc, c'est comme si dans ma tête, c'est la partie nouvelle. Je ne me rappelle pas. La Sainte Cène, c'est une prophétie du retour du Christ. Ah, bien important. Cette ordonnance doit être pratiquée jusqu'à ce que Christ vienne. C'est comme ça qu'il formule l'ordonnance. Et Paul dit, à chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort. Ah, nous annonçons, très explicite. Et donc, on voit très bien et cette signification enchâssée hein, dans le texte de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, 25 à 26. Donc, c'est très clairement exprimé. À chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne participer à la Sainte Cène, pratiquer la Sainte Cène, revient à non seulement se rappeler, se souvenir du Christ et de sa personne, de son œuvre, non seulement cela signifie que le Christ eh bien, a scellé dans son sang la nouvelle alliance, la vraie, la véritable. Non seulement c'est une proclamation de la mort du Christ, mais aussi, mais oui, c'est aussi une proclamation de la mort du Christ. C'est une prophétie du retour du Christ, pardon. Bon, je vous le dis, je ne boirai plus désormais, Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. La promesse est scellée, une promesse est faite ici, hein, avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, voyez-vous, et la Sainte Cène, nous annonçons la mort du Christ, numéro un. Mais numéro deux, c'est une prophétie. Le Christ donne une prophétie quant à son retour dans bien d'autres passages de l'Écriture. Mais dans Matthieu chapitre 26, le verset 29, nous voyons que cette prophétie vient au moment même, est évoquée au moment même où il institue la Sainte Cène. Alors, très important de comprendre en quel sens nous disons que participer à la Sainte Cène revient à se souvenir de cette prophétie, à annoncer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Cette déclaration nous fait comprendre que le repas du Seigneur nous rappelle non seulement ce que Jésus a fait pour nous, mais aussi ce que Jésus fera pour nous. Ah, c'est pas pareil. Cet élément de la Sainte Cène, cette signification de la Sainte Cène, le fait de rester collé à cet élément-là, eh bien, constitue notre attachement à cette promesse que le Christ fait par rapport à ce qu'il accomplira encore. par rapport à ce qu'il accomplit encore. Donc, dans la cette scène, il y a une expression de notre gratitude, de notre attachement, de reconnaissance à Christ par rapport à ce qu'il a fait, mais aussi par rapport à ce qu'il apportera, ce qu'il fera dans l'avenir, mes frères et mes sœurs. Le fait de prendre le repas du Seigneur ensemble nous rappelle la joyeuse et glorieuse réunion, le joyeux et glorieux rassemblement, la joyeuse et la glorieuse fête, jubilation éternelle qui attendent les saints dans l'éternité de Dieu, dans la maison du Père, mes frères et mes sœurs. Donc, et lorsque nous nous réunissons autour de la table du Seigneur, nous sommes en miniature, hein? Nous sommes en représentation de ce que sera notre fête dans la gloire, de ce que sera notre réunion dans la gloire. C'est pour ça que je vous dis, c'est un geste d'adoration très important. Il n'y a pas grand-chose qui représente notre communion dans la gloire, notre félicité, notre joie, notre festin de gloire dans la présence de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de geste qui soit plus évocateur, je répète, il n'y a pas de geste d'adoration qui soit plus évocateur de cette réunion, de cette glorieuse rencontre dans l'éternité de Dieu que la Sainte Cène. Ce n'est pas la prière. Ce n'est même pas la proclamation de la parole de Dieu. Ah, adoration, oui. Chanter, c'est-à-dire la louange, oui, passablement, mais même pas autant. Hein? Donc, tout ça, c'est pour vous montrer, parce que quand nous nous réunissons pour la Sainte Cène, les saints anges sont autour de nous. Ils chantent avec nous, ils communient avec nous. Le trône de Dieu est avec nous. Et ça va, là. Il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'on ne voit pas. Et en vérité, ce qu'on ne voit pas est plus important que ce qu'on voit. Le Christ est là. C'est l'hôte invisible. C'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous donne à manger. Nous mangeons en son nom, en son honneur, en reconnaissance à lui. Et c'est lui qui nous donne à manger. Vous voyez un pasteur, mais c'est le Christ qui vous sert à manger. Et alors, les saints anges de leur côté chantent avec nous, expriment leur adoration avec nous. Quel beau moment, quel beau geste d'adoration, frères et sœurs, mais bien-aimés. Alors, une autre signification de la Sainte Cène, c'est que la Sainte Cène, c'est une, en plus d'être une commémoration de l'offrande du Christ sur la croix, à travers un repas mangé avec joie et avec simplicité de cœur, hein, la Sainte Cène est un repas de communion. Hein. Je suis rendu quoi, peut-être au cinquième élément de signification. Essayez de vous les rappeler. La Sainte Cène, je dis, comme autre élément de signification, la Sainte Cène, c'est un corps, c'est une communion. Ou alors, la Sainte Cène, c'est un repas de communion. L'apôtre Paul parle de la Sainte Cène comme étant un repas de communion quand il dit: la coupe de bénédiction n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Poser la question, c'est y répondre. C'est une question rhétorique. C'est une question affirmation. C'est une interrogation affirmation. Et donc, il dit, il affirme que la coupe de bénédiction, c'est-à-dire la Sainte Cène, il dit qu'elle est un repas de communion. Hein? N'est-elle pas la communion au sang du Christ? En mangeant ce pain et en buvant ce vin, symbolisant le corps du Christ meurtri et son sang versé, eh bien, nous communions avec le Christ. Nous exprimons notre communion avec le Christ. 1 Corinthiens 10, le verset 16. Lorsque Paul dit, la coupe de bénédiction, c'est la communion au sang du Christ, il est en train de parler du corps et du sang du Christ comme Christ lui-même en a parlé. Au moment, on vient de le voir, au moment d'instituer la Sainte Cène, le Christ a parlé de son corps et de son sang en ces mêmes termes. Il a parlé de ce repas en ce même terme. Il a parlé de la fraction du pain, de la coupe de bénédiction en ce même terme, c'est-à-dire comme un repas de communion. Lorsqu'il parle de sa vie qu'il donne pour ceux qui se croient, qui croiraient en lui. Donc, en mangeant le pain et en buvant la coupe, nous célébrons, hein, voilà la signification, nous célébrons notre communion, la communion de l'Église avec le Seigneur Jésus-Christ qui s'est livré pour nous jusqu'à la mort de la croix. Il convient donc, frères et sœurs, de noter que cette communion avec notre Rédempteur, notre Sauveur, le capitaine, le chef de l'Église, se fait par la foi. Hein? C'est une communion de foi. C'est par la foi qu'à la table, et même en dehors de la table, nous mangeons le corps du Christ et nous buvons son sang. Hein? C'est par la foi. En Jean chapitre 6, le verset 29 à 58, il est écrit ceci. En vérité, je vous le dis, Jean chapitre 6, verset 47 à 51, c'est un texte connu de la congrégation, mais qu'à cela ne tienne. En vérité, j'essaie d'expliquer, communion par la foi, manger par la foi, ok. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Gloire à notre Dieu. Et au verset 48, verset 6, chapitre 6 de Saint Jean, de l'évangile selon Saint Jean, le Christ dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ah. Et verset 50 maintenant. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Alors, cela ne peut pas être autre que manger dans la foi et par la foi. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Manger ici, c'est manger dans la foi et par la foi. Nous ne sommes pas des cannibales, nous. Les chrétiens évangéliques protestants ne sont pas des cannibales. Le Christ n'est pas en train de dire que nous sommes des cannibales. Hein? On est ici dans un geste de foi. Le fait de croire en sa mort et en sa résurrection, c'est ça manger son pain et boire son sang. Je l'ai déjà expliqué dans la congrégation, la fois passée aussi. Verset 51, il réaffirme qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Gloire à notre Dieu. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Tout est clair quand on veut comprendre, quand on s'assoit pour comprendre dans l'esprit, dans l'onction, la présence et la direction de l'esprit, frères et sœurs. Voilà pourquoi votre pasteur vous parle maintenant d'une communion de foi. Alors, c'est le fait que nous sommes, très important. La Sainte Cène ne vient pas nous mettre en communion. Je suis en train de dire à l'Église que la Sainte Cène n'est pas venue nous mettre en communion avec le Christ. La Sainte Cène est un signe, est une évocation, est une représentation, c'est une illustration de notre communion de foi avec Christ. C'est ce que je voulais dire. Parce que, on ne sait jamais, c'est ce que certaines congrégations croient. Surtout, bon, je n'ai pas besoin de nommer, mais il faut pas qu'aucun parmi nous, j'ai déjà enseigné amplement dans la congrégation là-dessus, il faut pas qu'aucun parmi nous croit la même chose. La Sainte Cène n'est pas venue nous mettre en communion avec le Christ. Nous y participons parce que nous avons avec lui une communion de foi, une communion éternelle, dans le fait d'avoir manger avec joie, avec humilité et avec foi son corps, sa chair, et d'avoir bu, eh bien, son sang. Et voilà pourquoi nous nous approchons de la table. La Sainte Cène est faite pour ceux qui ont mangé le corps du Christ. La Sainte Cène est faite pour ceux qui ont bu le sang du Christ. Gloire à notre Dieu. Merci, Seigneur. Alors, l'Église du Seigneur a besoin de comprendre cet aspect de la vérité évangélique, mes frères et mes sœurs. Donc, le Seigneur Jésus-Christ nous donne une communion avec lui, en nous donnant accès à son royaume, en nous donnant la vie éternelle, en nous avoir fait la grâce d'ouvrir nos yeux pour comprendre la nécessité de manger son corps et de boire son sang. Il nous a établis dans cette communion avec lui. Donc, notre communion est plus profonde. Ah, cela dit, hein? Si nous parlons d'une communion de foi, notre communion est plus profonde avec lui que la Sainte Cène. Je répète, notre communion est plus importante avec lui que la Sainte Cène, qui est un repas de communion pareil. Donc, autrement dit, la Sainte Cène vient après. Voilà, la Sainte Cène vient après. La communion ultime, c'est le fait d'être en Christ et que lui est en nous, par le fait d'avoir mangé son corps, sa chair et d'avoir bu son sang. Bien important de comprendre cela, mes frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle un degré de supériorité dans ces deux communions-là. Hein? La communion avec Christ, la communion de foi, hein, est plus importante que la communion de la Sainte Cène, qui reste une voie de communion. Mais en termes d'illustration, en termes de représentation, en termes, eh bien, de gestes, de reconnaissance et d'action de grâce à l'endroit du Christ, par le fait qu'il a livré sa chair et qu'il a livré son sang pour nous mettre justement en communion avec lui, mes frères et mes sœurs. J'ai expliqué dans la congrégation que la Sainte Cène, c'est un repas spécial. C'est un geste d'adoration spécial. Pourquoi? Mais c'est parce que la Sainte Cène, c'est le geste qui traduit notre communion avec Christ. Mais pas que seulement. La Sainte Cène est un repas de communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Là, j'enchaîne avec un dernier élément de signification de la Sainte Cène. J'espère que vous vous en rappelez. La Sainte Cène n'est pas seulement un repas de communion avec le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. C'est également un repas de communion avec les frères et sœurs de la congrégation dans la foi, en particulier ceux et celles de notre Église locale. Ah, le saviez-vous? L'hôte du repas, c'est le Christ. Celui qui donne à manger, c'est le Christ. Celui en l'honneur duquel nous nous réunissons pour, eh bien, manger ce repas, c'est le Christ. Donc, tout cela mis ensemble évoque notre communion avec lui. Il n'y a pas de doute, nous venons de l'expliquer en détail. Mais il n'y a pas que cela. C'est aussi un repas de communion fraternelle. Et la Sainte Cène traduit notre communion les uns avec les autres, les frères et sœurs dans la foi. 1 Corinthiens 10, verset 17. 1 Corinthiens 10, verset 17. L'apôtre Paul dit ceci: puisqu'il y a un seul pain, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, ah, notre Dieu, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Ah, c'est là que tu apprends cette histoire de dire que la Sainte Cène traduit un repas de communion fraternelle, ou notre communion les uns avec les autres. Hein, parce que nous sommes frères et sœurs en ayant bu à la même source, en ayant mangé à la même table. Ah, nous sommes unis dans le sang et le corps du Christ par le Saint-Esprit de Dieu qui nous a régénérés. Ah, gloire à notre Dieu. Et c'est ce que nous illustrons, c'est ce que nous exprimons, c'est ce que nous évoquons à travers la Sainte Cène. vous me voyez venir. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en communion avec leur église locale, qui participent à la Sainte Cène, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne comprennent pas. Ils n'aiment pas l'église, ils ne veulent pas de cette église-là, puis ils participent à la Sainte Cène là-dedans. C'est un problème théologique. Nous avons un problème théologique. OK? C'est bien important de comprendre cela. Donc, nous n'enseignons pas juste pour enseigner, nous enseignons pour appliquer l'enseignement. D'accord? Partagez ça avec les gens que vous rencontrez, que vous enseignez, avec qui vous méditez la parole. Si on n'est pas en communion avec une église, on ne participe pas à la Sainte Cène dans cette église-là. Pourquoi? Si vous voulez, vous pouvez le faire. Si c'est Gauveux, il peut le faire, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça passe à côté du but, tout simplement. Pas comme une chicane, là. C'est plutôt ça ne sert à rien. OK? Dans la communion de la Sainte Cène, frères et sœurs, on ne peut pas s'isoler des autres croyants de l'Église. C'est à la Sainte Cène que nous éprouvons le fait qu'il y a un seul corps. C'est à la Sainte Cène que nous démontrons, hein, c'est là cette scène qui symbolise dans le visible ce qui est vrai, ce qui est une réalité dans l'invisible, à savoir que nous participons tous à un même sang et à un même corps. Alors, si ce n'est pas vrai dans l'invisible, pas besoin de le faire dans le visible. Ah. Il y a, dit Saint Paul en Éphésiens, un seul esprit, une seule espérance, une seule foi, un seul Seigneur et Dieu, Éphésiens 4, verset 4 à 6. Et cela malgré toutes les différences qu'il y a entre nous. En sorte que s'il y a un problème, on le règle. Mais on ne met pas la main dans le plateau parce que ça ne me sert de rien. Parce qu'il ne traduit pas, eh bien, ma relation avec la congrégation. La Sainte Cène, c'est aussi la célébration de la communion des saints. Ah, gloire à notre Dieu. Nous qui sommes liés à Jésus le Christ, le Seigneur de nos vies, le Seigneur de l'Église, nous sommes liés également, par le fait même, par le fait d'être liés avec le Seigneur, le fondateur ultime de l'Église, nous sommes par le fait même, par conséquent donc, liés les uns aux autres. Et c'est à travers la Sainte Cène que nous célébrons, que nous démontrons cette solidarité, ce lien d'amour. Je vous entends chanter souvent, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et la Sainte Cène, c'est un geste d'adoration qui témoigne de cette unité, de cette soudure, de cette liaison qu'il y a par le fait que nous mangeons tous à la même table, c'est-à-dire à la table du Seigneur en mangeant son pain, son corps et aussi en buvant son sang par la foi. J'ai expliqué comment. Eh bien, c'est ce qui fait de nous une fraternité, une communauté de frères. Et que quand nous nous réunissons pour la Sainte Cène, nous nous démontrons à travers ce geste d'adoration, mes frères et mes sœurs. Il n'y a pas que cela. À travers la Sainte Cène, nous nous disons serviteurs les uns des autres. Ah, voyez-vous? Ah, je dis à la mapée en signification, oui, là. Hein, bah, quand on se songe, on commence à appeler là. Nous nous disons, la réalité, c'est cela. Mais nous le proclamons à travers la Sainte Cène aussi, OK? Nous nous disons serviteurs les uns des autres. Gloire à notre Dieu. Nous promettons, hein, de prendre soin les uns des autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, la Sainte Cène, la participation, pas la Sainte Cène en elle-même, mais la participation. Hein, la participation à la Sainte Cène est là pour contribuer à nous stimuler, à nous motiver, eh bien, à résoudre nos problèmes, à rétablir la paix, à trouver la paix entre nous, avant de pouvoir y participer. Ben, pile fois, c'est comme ça, oui, ça peut passer. Nous prenons ça, l'homme tape grand, dit, ouais, ça. Alors, bien important de comprendre cela. Enfin, la Sainte Cène, dis-je, c'est un repas non seulement de communion avec le Christ, un repas de communion avec les frères, mais aussi une illustration du fait que nous sommes serviteurs les uns les autres. Donc, ce qui veut dire que la Sainte Cène est un repas de service. C'est un repas de service. En quoi et pourquoi donc la Sainte Cène est-elle un repas de service? Parce que le Christ est notre serviteur. Il s'appelle le serviteur souffrant. Hein, en Marc, pardon. Il s'appelle le serviteur souffrant. Parce que c'est très important ce qui s'est passé là, ça m'a dit là. En donnant son sang pour que toi et moi, nous le buvions pour la vie éternelle, en livrant son corps pour que toi et moi, nous le mangions au sens que je l'ai expliqué tout à l'heure, n'oubliez pas cela. J'ai dit que nous ne sommes pas des cannibales déjà, mais mangez par la foi, c'est-à-dire en croyant en lui, en croyant en ce qu'il a fait. En croyant en le fait qu'il les a livrés, okay? C'est ça manger. Alors, je recommence. En livrant son sang pour nous donner la vie éternelle, en livrant son corps pour nous donner la vie éternelle, il s'est fait serviteur de toi et de moi. Plus qu'un esclave, ça là. Il s'est fait esclave de toi et de moi. Incidemment, lorsque nous participons à la table du Seigneur, oui, nous nous souvenons de lui dans ce qu'il a fait, mais comme serviteur. Mais cela aussi nous rappelle, mais c'est lui-même qui a dit ça, hein. Cela aussi, par le fait même, en nous rappelant de son service à notre égard, nous voulons proclamer que nous sommes serviteurs à sa suite les uns des autres. Il nous a servi, nous le servons en retour. Et comment le servons-nous en retour? Pas seulement en chantant sa gloire, pas seulement en participant à la chorale, pas seulement en prêchant l'évangile, pas seulement en contribuant à la dîme offrande, pas seulement en évangélisant, pas seulement en vivant une vie de prière, pas seulement en vivant une vie de sainteté, mais aussi en vivant une vie de service. Les uns envers les autres. Le ministère que j'accomplis. Quand je fais un ministère là, je ne suis pas en train de faire de la faveur à l'Église. Ou à Christ, je suis en train de lui rendre, si c'était possible, parce que c'est même pas possible, parce que ce que je lui donne est trop peu par rapport à ce qu'il a fait, mais je suis comme en train de lui rendre ce qu'il a fait pour moi. Je réponds au service par le service. Je réponds à l'amour service par l'amour service. Et le Christ a clairement dit que ce service-là commence d'abord par servir ceux et celles que nous voyons, que nous côtoyons dans le visible. Sinon, ça ne sert à rien de dire que nous le servons. Voilà tout ce que, eh bien, la Sainte Cène traduit l'oratoire. Quand vous et moi, nous sommes à l'église, parce que je n'ai pas prêché encore là-dessus, quand vous et moi, nous sommes à l'église, tout le temps, nous disons, nous nous souvenons, nous nous souvenons, mais il n'y a pas que ça. Nous proclamons son retour, l'espérance de son retour. Nous proclamons sa mort, nous évangélisons, nous traduisons notre communion avec lui. Et avec les uns, avec les autres. Et aussi, nous traduisons, également nous évoquons, par notre présence autour de la table, par notre participation au Saint-Repas du Maître, eh bien, nous exprimons aussi notre désir, hein, notre volonté, notre compréhension du fait de servir. Sous besoin, ouais, ça peut bien, à garder nos jambes, peut-être en lire avec vous, pourquoi pas. Jean 13, verset 1 à 17, pourquoi pas. Peut-être que je reviendrai. Jean 13, verset 1 à 17. Hein? C'est entre autres là que Pasteur apprend ça. Alors, le service du Christ nous motive, nous stimule à nous servir les uns les autres, les frères, dans la foi. Je m'apprête à terminer en parlant des bénéficiaires de la Sainte Cène. Poser la question, c'est y répondre, puisque en exposant tout à l'heure, en ayant exposé tout à l'heure, et en ayant exposé le mercredi dernier, et puis c'est un secret de Polichinelle, vous savez tous à qui est destinée la Sainte Cène. Mais puisque nous enseignons, parole bon Dieu, pas jambes qu'on aime déjà, alors on va dire un mot quand même, mais vous le savez déjà, vous autres là. À qui la Sainte Cène est-elle destinée, cela dit? Ben, nous l'avons dit, à ceux qui ont mangé le corps du Christ et qui ont bu son sang, c'est-à-dire aux croyants, aux gens régénérés, à ceux qui se confient en Jésus-Christ, à ceux qui reconnaissent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés, qu'il est ressuscité pour leur justification, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qu'ils méritent la mort éternelle et qui, par conséquent, cherchent leur salut en Jésus-Christ de Nazareth. À ceux qui croient que Jésus a subi sur la croix la colère de Dieu contre leur péché. À ceux qui croient qu'il a été fait péché pour eux, qu'il a été puni à la croix pour eux. Autrement dit, ça s'adresse aux chrétiens, à ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître, premièrement. Mais pas que cela. Donc, ça vient d'établir, ça vient d'établir la limite entre les gens du dedans et les gens du dehors, c'est-à-dire entre les convertis, les croyants et les incroyants, entre les convertis et les inconvertis, entre les régénérés et les irrégénérés. Ça vient fixer les limites, le périmètre, hein, par rapport à l'extérieur. Mais à l'intérieur aussi, il y a un périmètre. C'est-à-dire que parmi ceux qui croient déjà à tout ce que j'ai nommé là, la Sainte Cène est destinée, certes, à condition qu'ils vivent en conformité avec leur foi, avec ce qu'ils croient. On est là? Donc, j'ai fait une première grande division, croyants, incroyants. Donc, il n'y a que les croyants qui y ont accès. Terminé, bye. Pas comme dans l'Église catholique, en plus, l'autre Église que nous connaissons. Maintenant, à l'intérieur du deuxième groupe des ayants droit, entre guillemets, hein, des ayants grâce, des ayants accès, hein, à l'intérieur de ce groupe-là, eh bien, prenons n'importe quelle église locale que vous connaissez au monde, eh bien, ceux parmi eux qui vivent en conformité à sa yodiyokwea, à sa nosot nomé layo, c'est eux-mêmes, c'est eux qui ont droit de participer à cette table-là. Bien important de comprendre cela. Ceux qui croient qu'ils doivent vivre désormais pour Dieu en observant sa volonté. Là, vous me voyez venir. Bon, on va être plus clair. Ceux qui ne vivent pas dans le péché, ceux qui ne pratiquent pas un péché connu, on va dire ceux qui ne sont pas des pécheurs. La pasteur a dit non. Se disent ceux qui ne pratiquent pas un péché connu. Ça existe. Pratiquer un péché connu. C'est eux qui ont part à cette table, qui ont le droit de mettre la main dans le plateau. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, avec Christ. Ceux qui sont en communion de tous les jours, quotidiennement avec Christ. C'est-à-dire ceux qui ont confessé leur péché. Ça ne veut pas dire que si tu as commis un péché, ou si même tu as vécu dans une vie de pratique de péché, alors que tu étais sauvé, ah, puis tu n'as plus le droit, non? Non. Une fois que ton péché, tu as été là dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 9 ans, 6 mois, 4 mois, tu as droit. Si ton péché a été confessé et puis tu l'as abandonné, celui qui avoue sa faute et qui le délaisse est pardonné. Et qui la délaisse est pardonné. Et que tu es formel à cet égard-là. Donc, parce que nous ne sommes pas une communauté de parfaits. Nous sommes une communauté qui tend à la perfection. Hein? Nous sommes parfaits en Christ, ça c'est évident. De par notre position, nous sommes positionnellement parfaits, nous sommes sanctifiés. Mais il peut arriver que nous trébuchions. On a plutté pour ne pas, OK? Pour ne pas tomber. Alors, ben, il n'y a pas de prétexte à prendre là, OK? Mais il ne faut pas faire comme Pierre, OK? Cela dit. Mais, eh bien, c'est ça, c'est ce que je vous dis. Donc, il ne s'agit pas de croyants parfaits, mais plutôt des hommes et des femmes qui, avec leur faiblesse, après avoir vécu une journée de péché, une vie de péché, un moment de péché, se réfugient dans la grâce de Dieu et dans la puissance de pardon de Dieu, dans la puissance de purification de Dieu, dans la souveraineté, dans la capacité de Dieu à rétablir la communion avec lui et son fils et sa fille. eh bien, ces gens-là, ultimement, sont aptes à participer à la Sainte Cène. Hein? N'oubliez pas cela. Incidemment, cela dit, la participation à la Sainte Cène n'est pas automatique. Non, depuis quand? Depuis quand? La participation à la Sainte Cène n'est pas automatique. La participation à la Sainte Cène est conditionnelle. Conditionnelle à quoi, pasteur? Mais à une vie de dignité, à une vie d'honneur à Dieu, à une vie de reconnaissance à Dieu, à une vie de conformité à Dieu, à sa parole, à une vie de conformité à notre confession de foi. N'avons-nous pas dit que le Christ est mort pour nos péchés? Et comment ça se fait que nous vivons dans le péché? Nous n'avons-nous pas dit que la Sainte Cène, c'est un temps de communion avec Christ? Mais s'il n'y a pas de communion, pourquoi la Sainte Cène? S'il n'y a pas de communion, pourquoi la Sainte Cène? S'il n'y a pas de communion dans la maison, s'il n'y a pas de communion dans la caille-là, pourquoi la Sainte Cène? S'il n'y a pas de communion avec Dieu dans les finances, pourquoi la Sainte Cène? Le péché n'a pas allé là, ce n'est pas adultère, seulement ce n'est pas magie, ce n'est pas vaudou. C'est tout péché qu'on est, ni gros ni petit péché, n'a guère chance en leur faire enseignement si bon Dieu protège pour la vie, sous petit péché, sous gros péché. D'abord, est-ce que ça existe? Parce que la Bible parle de grands péchés. Ils sont coupables de grands péchés. On va voir ça veut dire, si Dieu veut. Mais c'est important de comprendre cela. Et alors, pour y parvenir, Saint Paul nous dit quoi faire. Saint Paul nous dit, ah, bien important l'Église. Saint Paul dit, pour ne pas en arriver là, ah, Saint Paul dit, que la participation à la Sainte Cène n'est pas un acte automatique, n'est pas un geste automatique, n'est pas un privilège automatique, ça prend une condition. Quelle condition? Une condition de communion avec Christ. Une vie de dignité, une vie de conformité à la foi chrétienne et à la parole de Dieu. Et Saint Paul nous dit comment régler ça. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Vous vous rappelez ce petit verset? Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et Saint Paul dit que chacun s'éprouve soi-même. Pourquoi chacun a besoin de s'éprouver soi-même? Je n'ai pas le temps de lire le texte pour toi. Attendez-moi là. Pourquoi chacun a-t-il besoin? Pourquoi chacune a-t-il besoin de s'éprouver soi-même? Attendez-moi là. La voix me quitte là. Hein? J'arrive. Et verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera, voilà. Voilà, celui qui mange, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, verset 26, 1 Corinthiens 11, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, 1 Corinthiens 11, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Yo, c'est pas rien là. Et alors, pour ne pas en arriver là, pour ne pas manger et boire indignement, est-ce qu'on jette la serviette, on s'en va, on quitte l'église? Mais non. Notre salut est éternel. Mais plutôt, verset 28, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a pas à se décourager. On a juste à s'examiner. Que chacun s'éprouve, bien s'examiner, hein, s'éprouve soi-même. Ah, et qu'ainsi, ce n'est pas une affaire de mettre personne dehors. Et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. C'est juste ça. Que chacun s'examine soi-même. S'examiner, c'est s'évaluer soi-même à la lumière de la parole de Dieu, de ce que dit la foi chrétienne, à la lumière de la signification, en l'occurrence, à la lumière de la signification de la Sainte Cène. Ah, à la lumière, hein, plus près de nous, au cas faire dans toute reste Bible là, mais par rapport à la signification. Plus près de nous, de s'évaluer par rapport à la signification de la Sainte Cène pour juger de son aptitude à y participer. Est-ce que moi, Sergo, je suis apte à participer à la Sainte Cène? Est-ce que moi, Bouki, je suis apte à participer à la Sainte Cène? Est-ce que moi, Malice, je suis apte à participer à la Sainte Cène? C'est ça que ça veut dire. Mais ce n'est pas avec mon opinion, ce n'est pas avec ma sagesse que je vais le savoir. Ah, ce n'est pas avec la tradition des hommes, ni même ce que les autres me disent. Mais avec ce que la parole de Dieu me dit, eu égard à la Sainte Cène et à sa sainteté en général. Gloire à notre Dieu. Car pourquoi c'est important de s'examiner pour ne pas manger indignement?
Parce qu'il a raison, car celui qui mange et boit sans discerner, ouh, sans discerner le corps du Seigneur, vous savez ce que ça veut dire discerner ici? Discerner veut dire ici, sans tenir compte de la signification de son corps, sans tenir compte de ce que ça veut dire manger son corps, manger ce pain symbolisant son corps, boire ce vin, sans tenir compte de ce que cela veut dire. Voilà ce que ça veut dire discerner. Ah, je suis obligé de m'arrêter ici parce qu'il est 21h. Et je remercie mon Dieu de ce que la voix m'a permis de... Il m'a permis de garder la voix jusqu'à cette seconde. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Je termine là. Et je vais juste arrêter l'enregistrement. Si vous avez
Oui,
peut-être...
pasteur.
J'arrive tout de suite.
Oui, pasteur.
J'arrive tout de suite.